Bienvenue dans Entreprendre avec la permaculture avec
Aline,
Violaine
et Marie. Bienvenue dans Entreprendre avec la permaculture, notre laboratoire d'entrepreneurs pour mettre en cohérence nos entreprises avec les lois du vivant pour un monde plus respectueux, abondant et résilient. Alors, vous êtes avec Aline Foubert, paysanne herboriste, fondatrice de Madame Pâquerette. Bonjour Aline.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes avec Violaine de Ravignan, fondatrice de l'atelier des arènes qui propose des ateliers autour du cuir. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et moi-même, donc, Marie Gasque, fondatrice d'un cabinet de kinésiologie spécialisé en périnatalité. Et nous sommes les créatrices de cette émission. Notre objectif, c'est vous partager notre quotidien d'entrepreneur qui cherche à allier permaculture et développement de nos entreprises. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une émission un peu spéciale. Car on reste sur le principe de permaculture de la dernière fois, donc c'était collecter et stocker l'énergie. Parce qu'on voulait mettre en lumière une chose essentielle dans nos entreprises, mais finalement, dont on entend parler, mais concrètement, finalement, très peu. Et ça, c'est l'argent. Donc, on démarre un épisode consacré uniquement à l'argent. Alors, Aline... Déjà, on peut peut-être préciser plusieurs choses sur notre manière de parler de l'argent et ce qu'on n'est pas. On n'est pas en train de vous donner des conseils financiers à appliquer à vos entreprises. Simplement, c'est pas nos métiers et c'est pas notre rôle. Mais plutôt, on a envie de partager nos expériences liées à l'argent dans nos entreprises. Et on le rappelle, ce podcast se veut un partage et finalement une ressource d'intelligence collective à notre propre service et puis à votre service, à vous qui écoutez et peut-être qui êtes entrepreneur ou qui avez un projet d'entreprise. Déjà, on va peut-être rappeler la définition de ce principe.
Oui, alors, ce deuxième principe de permaculture qui est collecter et stocker l'énergie propose donc de développer des systèmes qui permettent de collecter et stocker l'énergie et les ressources tant qu'elles sont abondantes, afin de pouvoir continuer à en bénéficier quand l'abondance, alors elle peut être saisonnière, diminue ou se dissipe.
Et du coup, je trouve, quand on a regardé ça vraiment sous l'angle uniquement de l'argent, déjà, le fait qu'on parle de tant qu'il est abondant, cet argent, et du coup, ça change un petit peu complètement la façon de comprendre ce principe et ce tant qu'il est abondant, c'est vraiment important. Et donc, on va démarrer sur comment on collecte ou comment nous, on a collecté l'argent tant qu'il était abondant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas abondant aujourd'hui, mais où est-ce qu'on a trouvé, à quel moment on a trouvé l'abondance ? Et donc, dans ce moment-là d'abondance, qu'est-ce qu'on en a fait et comment on l'a collecté ? Alors, peut-être, il y a au tout début, avant même que notre entreprise existe, donc on a ciblé plusieurs choses, plusieurs manières de collecter l'argent tant qu'il est abondant.
Oui, alors je peux prendre la parole. C'est vrai qu'on a toutes les trois eu un parcours avant la création de notre entreprise, parce que ce sont trois reconversions. Et du coup, l'argent que l'on a pu gagner avant de créer notre entreprise dans les différents métiers en fait, qu'on a eu, ça a été un temps notamment de collecte. Ça a été un temps de collecte pour pouvoir lancer notre entreprise et démarrer en fait avec un petit capital.
Donc les manières de collecter, par exemple, toi, ça a été quoi avant de démarrer ?
Alors moi, avant de démarrer, j'ai été consultante pour le ministère de l'Environnement au Québec. Et du coup, ça a été un temps où en effet, j'ai pu mettre... de l'argent de côté, mais aussi le collecter. Et c'est un emploi que j'ai ensuite continué, que j'ai pu continuer en consultante, en fait, quand je suis rentrée en France. Et du coup, ça m'a permis d'avoir cette double activité lors du lancement de mon jardin de plantes médicinales qui m'a permis de continuer de collecter de l'argent en attendant de mettre en place mon jardin et mon entreprise.
Ok, pour rester dans le très concret, du coup, on a le même, on a eu la même façon de collecter en démarrant, puisque moi, j'étais journaliste. Donc, j'ai collecté l'argent comme ça, avant de démarrer. Et ensuite, j'ai eu la double activité. Donc, j'ai réduit mon temps, mais j'étais toujours salariée en tant que journaliste. Et en parallèle, j'ai démarré mon activité et de kinésiologue et donc j'ai ouvert mon cabinet de kinésiologue en parallèle. Violaine, je crois que ça a été un peu différent toi et c'est ça qui est riche, c'est qu'il y a plusieurs façons de collecter avant de démarrer.
Oui, en effet. Donc, avant d'avoir fait cette reconversion, donc j'étais directrice d'un magasin sur Paris et donc déjà à mon époque, j'avais collecté... je dirais mes primes et des choses comme ça. Et du coup, quand on est parti de Paris pour aller sur Lyon, et donc j'ai pu bénéficier d'aide. Et tout de suite, j'ai vu ça comme une opportunité de pouvoir collecter pour différentes choses que je vous expliquerai plus tard. Et ça a vraiment été pour moi un vrai capital et même une sécurité pour pouvoir me lancer.
Ok. Il y a aussi les notions de... on peut bénéficier d'un héritage. Et alors, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Comment on le met au service de cette sécurité-là dont on a besoin quand on démarre? Et donc, quand on démarre, on ne génère pas forcément... Après, tout est possible, mais on ne génère pas forcément beaucoup d'argent au départ. Il y a la notion de patrimoine. Donc, moi, je pourrais dire, par exemple, le patrimoine, c'était dans le cadre plus personnel, mais l'acquisition d'un terrain. Et aujourd'hui, ce n'était pas le cas au départ. Et je pense que ce n'était même pas l'objectif au départ, mais aujourd'hui, c'est le terrain sur lequel est construit mon cabinet. Il y a aussi cette notion de, finalement, peut-être qu'on collecte toute seule avec le travail, mais il y a aussi la possibilité de collecter à plusieurs, voire en famille. Et je crois, Aline, que ça, c'est un modèle que tu as pu expérimenter.
Oui, tout à fait. C'est vrai que quand je me suis lancée dans la création de Madame Pâquerette, mon compagnon, démarrait en fait un emploi en CDI. Et du coup, il a, à ce moment-là, vraiment collecté finalement, financièrement, pour la famille. Donc au départ, pour notre couple et puis ensuite maintenant pour notre famille parce qu'on est deux enfants.
Il y a deux enfants. Deux adultes, deux enfants, mais je suis d'accord avec toi, la vie de famille, il y a des jours où on ne sait plus trop.
Tout se mélange. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on peut faire force aussi, en fait, en famille. On peut faire force pour plein de choses, mais on peut aussi faire force financièrement. Et dans cette idée de collecter de l'argent à une échelle un peu plus large, et ici, au sein d'une famille, ça peut être vraiment très aidant quand on crée finalement une entreprise. Et puis, au-delà même de la famille qui est le couple, moi, je sais aussi que ces dernières années, j'ai eu la chance de recevoir une partie de l'héritage de mes grands-parents. Et donc, je prends ça vraiment comme un cadeau intergénérationnel qui, aujourd'hui, me permet aussi d'avoir collecté et, du coup, de pouvoir réinjecter dans mon entreprise. Donc, cette notion de collecter à plusieurs, c'est vrai qu'elle me parle beaucoup et je trouve ça aussi beau de faire force financièrement au sein d'une famille, parce que quand on monte le projet d'une entreprise, c'est aussi un projet qui peut nourrir une famille, dans le sens nourrir aussi, bon là, avec les mains dans la terre, oui, on peut dire même nourrir le corps, mais aussi, voilà, nourrir plein d'autres choses au sein de la famille. Et je trouve ça très riche que ce soit aussi un projet un peu collectif. Et dans ce collectif, y a aussi cette notion d'argent et cette notion financière. Et qu'aujourd'hui, je pense que mon entreprise n'aurait peut-être pas perduré aussi longtemps si je n'avais pas eu financièrement l'aide de mon compagnon.
Mais tout en... J'aime bien ta petite nuance qui est « on fait ensemble ». Et pas non, et non pas je suis là et j'ai mon compagnon qui m'aide. Cette notion de, en fait, on construit quelque chose en famille. La famille est là aussi pour soutenir l'entreprise et vice-versa. Je trouve qu'il y a quelque chose de super chouette là-dedans. Et dans cette notion de on collecte l'argent à plusieurs, il y a évidemment le financement participatif. Mais on ne va pas vous en parler là parce qu'on n'a pas l'expérience de ça. Voilà, toutes les trois, on n'a pas fait cette expérience-là, mais on sait que ça existe et on a des exemples autour de nous. Donc, une fois qu'on a collecté, ce que ce principe il propose, c'est stocker. C'est-à-dire, OK, j'ai de l'eau, il va falloir que je me soucie de savoir où je la stocke, pendant combien de temps, et après, pourquoi, comment je vais l'écouler, comment je vais renouveler, etc. Sachant que la ressource, il ne faut pas qu'elle s'épuise, sinon on n'en a plus. Et donc, cette notion de stocker, moi, ce que je peux partager, c'est qu'en y réfléchissant, toutes les trois, en parlant, je me suis rendu compte à quel point c'est primordial, ce principe-là. Il est absolument primordial quand on a une entreprise. Parce que stocker, c'est quoi ? Stocker, c'est de l'épargne. Stocker, c'est du patrimoine. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a les coups durs, c'est-à-dire une entreprise, c'est pas, on le sait tous, hein, c'est pas des revenus fixes, c'est pas un salaire tous les mois. Non pas qu'il n'y ait pas de salaire, mais ça fluctue. Et l'idée, c'est comment on l'a organisé pour que justement, on puisse avoir quelque chose de fixe, de durable dans le temps et de résilient. Résilient, c'est un coup dur. On parlait de saisonnalité lors d'un épisode précédent. C'est que face au coup dur, ça soutient. En fait, c'est juste essentiel à la fois pour sa propre sécurité. Enfin, voilà, moi, là, je parle vraiment directement de l'expérience. Et à la fois essentiel en termes de si on est en stress, en permanence, parce qu'il y a cette question de stocker et collecter l'argent, collecter, ok, ça se fait via nos activités, etc. Mais avec toujours le stress, c'est-à-dire être borderline en disant ce mois-ci, ça a moins bien, les résultats ne sont pas ceux que j'espérais, etc. Et du coup, comment je fais si on est en état de stress au moindre.
À moindre variation,
En fait, on ne tient pas. Et en plus, on a beaucoup moins de temps disponible pour penser notre entreprise, c'est-à-dire du coup pour continuer le développement de nos entreprises. Donc moi, j'ai vraiment pris conscience et justement avec des périodes de stress et en me disant comment on fait pour arrêter ça parce qu'en fait, c'est pas vivable sur le long terme. Donc c'est essentiel, cette histoire de stockage. Et c'est pas forcément ce à quoi on pense à collecter l'argent, mais cette notion de stockage, on oublie un petit peu. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, c'est vrai que la notion de collecter, on collecte de l'argent, en fait, de manière souvent très rapide lorsqu'on crée une entreprise, lors de la vente d'un produit, d'un service. Donc là, on va collecter l'argent. Donc on pense très rapidement à cette notion de collecter. Par contre, je trouve qu'en effet, le fait de stocker, ça nous demande de regarder les choses de manière un peu plus globale et de prendre un peu plus de hauteur sur notre entreprise. Et comme on me l'a souvent dit, ça, prends de la hauteur et travaille sur ton entreprise et pas que dans ton entreprise. Et je trouve que cette notion de stocker, et notamment stocker l'argent, hein, comme le disait très bien Marie, pour éviter peut-être des périodes de stress et se mettre aussi en sécurité, cette notion de stocker, elle nous oblige là, à prendre de la hauteur. Et en faisant ce travail-là avec les filles...
Pas elle nous oblige, elle nous permet.
Elle nous permet
elle
de
nous
le faire.
Offre la possibilité de le faire.
C'est tout à fait ça. Elle nous offre la possibilité de le faire parce qu'on s'est rendu compte ces dernières semaines, au fil de nos discussions, que collecter, oui, on y a toutes très bien pensé, mais alors stocker, c'était plus compliqué.
Exactement. Ceci dit, on l'a quand même stocké, cet argent. On a quand même des flux de stockage plus ou moins efficients. mais qui existent. Donc, on en a ciblé. Alors, Violaine, par exemple, pour toi, on a ciblé à la fois les machines et à la fois ta façon d'épargner au sein de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ?
Alors, en fait, c'est vrai que déjà l'investissement que j'ai pu faire avec mes machines et aussi mon stock, que je fais d'ailleurs régulièrement dès que je sais que je peux prendre sur le stock pour pouvoir investir, c'est pour moi une façon effectivement de pérenniser mon entreprise sur la durée. Je sais que je vais pouvoir aussi élargir mon offre si j'ai telle ou telle machine. Donc c'est quelque chose auquel je réfléchis. Donc pour moi, j'ai toujours cette notion d'épargner sur tout ce que je vais collecter. J'ai une partie que je vais vraiment épargner parce que je sais qu'à un moment donné, quand j'aurai atteint le montant que je souhaite, je vais pouvoir réinvestir dans d'autres machines. Je vais pouvoir continuer, poursuivre ou même tester d'autres matériaux à travailler que je n'ai pas encore eu la chance d'avoir entre les mains. Et donc ça, c'est pour moi, c'est presque vital pour ma créativité.
Et justement, je rajoute, parce que dans nos discussions, on s'est aperçu de ça, qu'en fait, épargner, je me mets à la place des gens qui nous écoutent, épargner, ouais, mais il faut déjà arriver à un certain niveau d'argent généré pour pouvoir se permettre d'épargner. Et en fait, ça, on est arrivé à la conclusion contraire, qui est absolument contre-intuitive. C'est-à-dire, si au début, on ne se dégage pas de salaire, eh bien, peut-être qu'on peut le mettre dans l'épargne. Et finalement, ces quelques centaines d'euros, ou une partie, une centaine d'euros par...
Oui, parfois, il n'y a pas besoin d'avoir des gros montants.
C'est ça. En fait, ça reste sur l'épargne de l'entreprise. Et on prenait l'exemple qui nous semblait significatif. Ne serait-ce que 500 euros par mois générés par nos entreprises. OK, c'est 500 euros au bout par mois. Hein. On calculait, je crois, en 3 ans, on arrive autour de 15 000 euros. Et en fait, c'est à considérer. On ne dit pas que c'est la chose à faire. Mais par contre... Ouais, avec 15 000 euros, là, on peut faire quelque chose. Ou en cas de coup dur, 15 000 euros, c'est pas rien non plus. Quoi.
C'est ça, complètement. Et puis, ça nous donne une certaine liberté aussi, du coup, dans un réajustement à faire, une stratégie qu'on voudrait mettre en place. Non, c'est vraiment, je pense, important.
Ouais, donc pour avoir toi, l'esprit... tu le pratiques, c'est ça, depuis plusieurs années.
Ouais.
Ça t'apporte quoi ?
Ça me tranquillise déjà. Et moi, depuis que je suis installée, j'ai rarement été en état de stress ou quoi. J'ai toujours été dans la perspective de voir sur du long terme. Et il y avait cette notion de, effectivement, pouvoir se dire qu'à 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais ça, on a eu des échanges dans d'autres
cercles
d'entrepreneurs pour parler de ça. Et oui, du coup, ça m'aide sur ces notions-là. Et d'ailleurs, ça me permet de revoir un peu tout ça comme un plan d'action pour pouvoir... diffuser après ce que j'ai pu stocker, savoir à quel moment je vais pouvoir l'utiliser.
Tout en continuant à l'alimenter. Exactement. Par cette épargne.
Exactement.
OK. Moi, ce que je peux partager, donc moi, ça n'a pas été tant par les machines, parce que kinésiologue, du petit matériel. Effectivement, je pourrais y revenir après. Mais il y a cette notion de patrimoine qui, pour moi, finalement, moi, c'est passé par l'immobilier. C'est-à-dire, il y a le terrain dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, la construction, c'est-à-dire l'argent que j'avais, je l'ai investi de départ. Pas tout, mais une partie. Je l'ai investi dans la construction de mon cabinet. Ce qui veut dire que j'ai un bel endroit Voilà, on parle de bien-être. C'était vraiment la bonne qualité des lieux et la beauté des lieux. C'était important pour moi, ça, dans la marque, dans ce que les valeurs que je propose, dans l'accueil, l'expérience client. C'était oui. quelque chose d'important. Et en fait, il se trouve que cet investissement immobilier, il est toujours porteur aujourd'hui. J'ai pas à payer de location, de salle ou quoi que ce soit. Et en plus, il a un double usage et il a été pensé comme ça. C'est-à-dire que les vacances payées, quand on devient entrepreneur, on sait que ça n'existe plus.
Pas de la même manière.
Pas de la même manière, en tout cas. Et au début, quand on n'a pas de salarié, c'est-à-dire où on sait que quand on ne travaille pas, c'est parce qu'on a stocké et collecté qu'on peut, mais bon, voilà, c'est moins évident que la normale. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, je le construis pour que ce chalet, il puisse être loué les 2 mois d'été. Donc, du coup, ce chalet, il me permet d'avoir des vacances l'été, ce cabinet. Et finalement, j'ai investi dans les matériaux, la déco, etc. Et j'ai investi dans ce côté location. Et je continue. Voilà. Il y a des petits postes qui permettent de maintenir la beauté du lieu. J'investis aussi pour le jardin qui fait partie de l'environnement. Et puis, il y a un autre point. C'est la notion de moins dépenser, ou en tout cas de dépenser de façon raisonnée et avec conscience. C'est aussi un moyen de stocker l'argent. Et ça, Aline, je pense que tu peux vraiment nous en parler.
Alors, c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question, mais alors comment je stocke l'argent? Alors oui, forcément un peu par l'épargne. J'ai aussi acheté un terrain, donc ça a été une autre façon de stocker. Et après, je me suis dit, mais en fait, je me rends compte que ma façon aussi de stocker, c'est de moins dépenser. Donc en fait, c'est finalement d'éviter que le stock s'effrite trop rapidement et de le garder le plus longtemps possible. Et dans le moins dépenser, c'est pas forcément se priver, mais c'est plus de dépenser autrement, de dépenser avec conscience, de dépenser de façon raisonnée, comme tu l'as bien dit. Et donc, c'est un peu de se poser la question à chaque fois que je fais une dépense, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle va me servir là tout de suite maintenant, ou quand même elle va me tenir dans la durée? Est-ce que je pourrais pas plutôt le trouver en seconde main, en recyclé, ou est-ce que ça peut peut-être pas plutôt faire partie d'un troc, d'un échange? Et en fait, cette façon-là de penser, de se dire, mais tout l'argent que j'ai dans les mains, je vais vraiment essayer de le dépenser en conscience, ça m'a aussi aidé à faire des économies.
Le dépenser et l'investir.
Ouais.
Tu vois,
ouais.
Ces deux notions.
Oui, complètement. Ça permet aussi, finalement, d'économiser un petit peu toute la chaîne dans laquelle on les dépense. On fait peut-être un peu plus attention à l'eau qu'on utilise, à l'électricité, pour avoir un petit peu moins de dépenses. Et tout peut être un peu pensé comme ça pour essayer de conserver un peu le stock que l'on a au départ. Et en fait, dans cette démarche-là, je trouve que on rentre dans un cercle en fait qui est très vertueux, parce que on dépense pas l'argent n'importe comment, et quand on le dépense, c'est vraiment avec conscience et souvent avec plaisir, en se disant là je me fais vraiment plaisir, je fais aussi plaisir à la personne à qui je le donne, et quelque part j'honore aussi peut-être la personne qui me l'a donné, cet argent-là. Et du coup, on rentre vraiment dans un cercle vertueux, dans une boucle vertueuse. Et ouais, ça, je trouve que c'est un...
Et je trouve que tu as un bel exemple aussi dans cette notion de troc, échange de services ou services rendus, données rendues, avec, je crois, des bourgeons. Enfin, explique-nous comment tu fais. Et ça, effectivement, ça permet de garder, de stocker cet argent-là. Et tu peux nous expliquer ?
Je récolte du coup des bourgeons de cassis chez plusieurs producteurs. Et en échange de la récolte de ces bourgeons, eh bien, je leur offre du coup des macérats de cassis que je fais avec leurs propres bourgeons.
Et oui, tu n'as pas à investir ni sur la culture, ni à payer la personne pour avoir le droit de venir récolter.
Oui. Donc voilà, du coup, là, il n'y a pas d'argent qui sort. Donc finalement, c'est une façon de la stocker. Et en même temps, à côté de ça, ben, moi, j'ai noué des partenariats avec des personnes qui sont fabuleuses, que je revois tous les ans avec grand plaisir, en général sur des lieux où je me régale. Et puis, ben, cette personne-là, elles reçoivent en échange des préparations que je leur fais, ben, avec aussi la belle intention de les remercier. Et là, tout est gagnant et dans le positif et dans le vertueux.
Et sur cette notion de stocker, alors là, ça va être un peu mon regard féministe. Cette notion de stocker, donc moi, j'ai beaucoup réfléchi pour la préparation de cette émission et dans nos discussions sur l'immobilier, le terrain, le patrimoine, mais moi, c'est du patrimoine immobilier. Et donc, il y avait vraiment cette question, OK, on collecte. Mais ensuite, comment on stocke l'argent, à la fois dans son entreprise, mais à la fois dans sa manière de le dépenser dans notre famille, en tant que femme, conjointe, maman. Et là, ça me ramène vraiment à un livre, aux travaux communiqués par une journaliste qui s'appelle Tissue Lecoq et qui a travaillé, elle s'est posé une question, elle a dit « Mais comment ça se fait qu'au fil de la vie, les inégalités entre hommes et femmes, les inégalités de salaire, donc on parle que d'argent, soient aussi grandes ?» Et je trouve que la notion de stocker, c'est que nous, comment en tant que femme et mère, on stocke ou pas l'argent. Alors, je vous explique, c'est la théorie du pot de yaourt. Donc, cette histoire de pot de yaourt, c'est quoi ? C'est-à-dire, okay, ça peut nous concerner beaucoup, nous, les entrepreneurs et femmes en démarrant. C'est-à-dire, OK, peu de revenus tout d'un coup. On le voit, toutes les trois, on avait des postes importants avec des salaires importants. Et tout d'un coup, on démarre quelque chose. On n'a plus ce salaire important qui tombe par mois. Et alors, comment on fait au sein de la famille? C'est-à-dire, comment on dépense le peu d'argent qu'on a? Et donc, cette théorie du pot de yaourt qui augmente les inégalités au fil de la vie entre hommes et femmes de manière exponentielle, c'est quoi? C'est, OK, la logique actuelle, et on le fait, mais je crois, toutes et tous, même sans y penser, c'est... J'ai peu d'argent, j'ai besoin d'aller faire les courses, j'ai mon enfant avec moi, je sors de l'école, hop, je vais faire les courses, OK. Mais si c'est nous, les femmes, donc moi qui vais faire les courses en permanence, etc., finalement, l'argent qui n'est pas énorme que je gagne au départ dans mon entreprise, bah, il passe en pot de yaourt. C'est ça le pot de yaourt. Sauf que... on l'a dit, les revenus sont pas stables, les revenus sont fluctuants et on a un compagnon ou un système familial en tout cas qui fait que le gros salaire, et tant mieux, hein, c'est ça qui nous a donné aussi souvent le courage de se lancer, la stabilité financière pour se lancer, c'est le compagnon, donc l'homme de la famille qui a ça. En plus, quand on a des enfants, on se retrouve souvent à temps partiel. Il y a un impact sur la carrière, etc. Nous, c'est un impact direct. C'est carrément, on change de voie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est, tu ne peux pas payer, et c'est normal, les traites de la banque pour l'emprunt immobilier. T'inquiète pas, j'ai l'argent, je prends tout en charge. OK? Une voiture? T'inquiète pas, il faut qu'on change la voiture ou juste on va se faire plaisir, on va acheter une grosse voiture ou plus performante ou enfin qui nous convient. OK, t'inquiète pas, t'as pas les moyens, c'est moi qui l'achète. Sauf qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans, 10 ans et 20 ans? Où a été stocké? C'est comme si on laissait filer cet argent qui a été stocké. C'est pas cet argent, c'est ce patrimoine. L'ensemble du patrimoine revient à l'homme. À celui qui est salarié, et nous, on est en train en tant que femme, mais je pense que c'est pareil avec en fait un gros écart de salaire si c'est l'homme qui se lance et du coup la femme qui gère, c'est pareil. C'est on se retrouve, hop, le patrimoine il glisse là où on l'avait au départ. Et comme on l'a dit, le patrimoine c'est aussi notre sécurité. Donc comment on fait?
On se marie.
Exactement, on se marie et on définit, et là on y pense vraiment au contrat de mariage, hein. On définit très précisément ce contrat de mariage, et c'est ce que dit Tissiot Lecoq. Elle dit qu'aujourd'hui, pour ces inégalités-là, quand dans un couple il y a une inégalité énorme de salaire, la solution la plus protectrice, c'est le mariage. Donc on est complètement contre-intuitif avec tout ce qu'on perçoit. Et il y a une autre manière, c'est-à-dire que l'argent que j'ai de mon entreprise, qui est pour moi, que je me verse moi-même, c'est qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire peut-être je ne vais pas aller acheter les pots de yaourt. Peut-être c'est le gros salaire qui va contribuer, qui va acheter les pots de yaourt. Par contre, même à une très faible hauteur, je continue et je maintiens ma participation immobilière, donc à rembourser la banque au niveau immobilier, et ma participation pour l'achat de la voiture. Parce qu'à terme, s'il y a un coup dur, s'il y a une séparation, si la structure de la famille change, je suis associée toujours au patrimoine et non pas, sans m'en rendre compte, pouaf, j'ai laissé filer, sans le remettre en, sans le garder, tout ce que sous ce patrimoine qui pourtant était stocké au départ. Voilà, c'est une petite chose, mais bon, voilà, moi qui me parle beaucoup depuis que j'ai découvert les écrits de Tissiot Lecoq. Si ça vous intéresse, vous tapez sur internet, vous trouvez très rapidement ces ouvrages. Donc, est-ce qu'on peut préciser ce cercle vertueux? En rappelant les différentes manières de stocker qu'on Alors, avait listées.
Moi, j'en ai une, si je peux la partager.
Oui, bien sûr.
C'est, par exemple, moi, quand j'utilise le cuir pour des ateliers ou des projets en production, il me reste toujours des chutes. Et en fait, pour moi, c'est aussi les chutes, je les stocke parce que c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai repris la production. Avant d'aller acheter des peaux neuves, j'ai pris dans mes chutes et je me suis fait une petite collection aussi sympa d'ailleurs. Et ça m'a permis même de travailler ma créativité. Et ça, pour le coup, j'ai pas eu besoin de dépenser en plus. Donc c'était vraiment, pour tous ceux qui sont dans la production et qui peuvent toujours un peu stocker une partie de ce qu'ils ont produit ou dans leurs matières premières, trouver des moyens de les réutiliser, etc.
Et on a eu l'exemple, hein, en discutant avec des entrepreneurs autour de nous, ça va même plus loin et je trouve ça passionnant. C'est que on peut collecter, faire à partir des chutes, ce qui évite, ce qui permet de continuer à stocker.
Oui.
Mais dans la gestion des déchets, c'est la même chose. Et donc, on a entendu parler dans nos réseaux d'entrepreneurs, notamment d'un maçon qui s'est posé la question des déchets de béton qu'il peut avoir, qui coûtent vraiment cher à retraiter. Et donc, c'était considéré comme des frais inhérents à l'entreprise. Et en fait, en s'intéressant à comment les déchets, toute la filière de recyclage ou pas, tous les coûts que ça génère dans l'entreprise, dans le même axe que de ce dont tu es en train de parler, c'est que du coup, il a trouvé une manière de faire et de créer et de réutiliser à partir du béton qui restait et qui jusque-là étaient comme des déchets. Donc comment par nous-mêmes on peut revaloriser nos propres déchets et donc générer de l'argent, donc collecter à nouveau de l'argent à partir des déchets. Voilà, c'est juste une petite chose peut-être qui peut vous parler. Et qui est tout à fait dans le cadre entreprendre avec la permaculture, parce que évidemment qu'on s'intéresse à notre environnement. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose?
Non, c'est bon.
On a bien fait le tour.
Ouais.
Ouais.
Violaine, Tu avais une petite conclusion pour ce podcast. On t'écoute.
Je vous le rappelle. Alors, en fait, si vous avez un jardin, c'est purement imagé, mais il y a une plante qui est une plante vivace qui est très intéressante à planter, qui s'appelle l'oseille.
Et pourquoi ? Alors l'oseille, moi je vois tout de suite hein, le rapport avec l'argent, mais où est-ce que tu veux en venir ?
Bon, déjà par le nom, ça nous rappelle à l'argent. Mmh. Et par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est pas de la laisser comme ça végéter. Il faut penser à la couper pour que ça régénère régulièrement de l'oseille. Voilà.
Ok, donc plus on prend un petit bout voilà. de cette plante, plus elle pousse.
Plus elle va, bon, bah oui, elle voilà. va se redévelopper. Ouais.
Effectivement, ça parle aussi. Dans
ça, c'est durable.
Vive l'oseille. On va conclure comme ça. Et donc, on vous dit à très vite.
À bientôt, Marie et Aline.
Et à bientôt.
Et à bientôt les auditeurs.
Voilà, toutes celles et ceux qui nous écoutaient, on vous dit à très vite.
À très vite.
C'était Aline, Violaine et Marie dans Entreprendre avec la permaculture.